Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service, comme je l'ai annoncé tout à l'heure au début de cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance du recensement général de la population. En République démocratique du Congo, la question du recensement général de la population est toujours d'actualité. Depuis les dénombrements de 1984, les démographes se perdent en conjectures pour déterminer le nombre exact des habitants de la RDC. Aujourd'hui, on parle de plus de 80 millions d'habitants. Et à Kinshasa, on parle de plus de 10 millions d'habitants. Alors, face au flou démographique, le président de la République a promis d'engager le gouvernement à réaliser un recensement afin de disposer des informations démographiques fiables. Alors, quelle est l'importance de cette opération? Quelle est l'importance du recensement? On en parle dans cette émission. Merci d'appeler déjà au 081-890-63-94 pour participer à cette émission. Envoyez-nous également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Professeur Barthélémy Kalambaye, vous êtes démographe. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Nous revenons sur cette question du recensement général de la population. C'est quoi le recensement?
Merci beaucoup. Le recensement, c'est un dénombrement de la population. C'est un comptage. Et lorsqu'on parle du recensement scientifique, il s'agit d'un comptage exhaustif. Et ce comptage est effectué à un jour qu'on appelle jour fixe. Et il doit couvrir l'ensemble d'un territoire donné. Et pour notre cas, il s'agit de la République démocratique du Congo. Et donc, de manière très très ramassée, il s'agit d'un comptage de l'effectif de la population, d'un dénombrement. Et ce dénombrement doit être fait de manière à ce que tout le monde qui habite le territoire à ce moment-là soit touché, soit,
compté. Le nombre des femmes, le nombre des hommes, le nombre des enfants, c'est comme ça que ça se passe.
C'est bien cela.
Des personnes âgées.
Oui. En plus de cela, on saisit les caractéristiques sociodémographiques de ces individus-là. C'est-à-dire, on a...
Par exemple, combien de personnes ont étudié, combien ne sont pas allées à l'école.
Très bien.
Quoi d'autre, professeur?
On prend le sexe. On prend la profession, comme vous avez dit, on prend l'âge de la personne, on prend le lieu où il réside, on prend son rôle dans le ménage, est-ce qu'il est chef de ménage, il est enfant de chef de ménage, et donc il y a toutes ces caractéristiques que nous appelons caractéristiques démographiques doivent être saisies au moment de ce comptage-là. Et donc, les agents recenseurs doivent passer case par case, maison par maison, pour avoir les informations qui concernent des personnes qui habitent dans ce ménage-là.
Alors, professeur, on a appris qu'il y a un flou démographique par rapport au nombre de la population congolaise. Aujourd'hui, on parle de plus de 80 millions d'habitants. D'où est-ce qu'on a tiré ces chiffres-là?
Ben justement, le terme flou est mieux indiqué. En République démocratique du Congo, nous avons effectivement ce flou démographique. On ne sait pas combien nous sommes, on ne sait pas qui sont qui dans ce pays. Et donc, en passant, je salue la proposition ou la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour ce qu'il veut faire, c'est-à-dire permettre à la République démocratique du Congo d'avoir, de connaître sa population. Le flou, c'est que maintenant, lorsque vous prenez les documents qui existent, ça peut être des rapports de recherche, chaque document a son chiffre. Si vous demandez à n'importe quel Congolais, chacun va vous balancer son chiffre.
D'où les estimations.
On tire ça, ça vient de projections qui sont faites à partir des données du recensement de 1984. Eh bien, sur le plan des principes scientifiques, on ne peut utiliser les données de manière fiable pour faire des projections lorsque le dernier recensement sur lequel on se base pour faire ces projections date de 5 ans ou de 10 ans. Dépasser 10 ans, tout ce que nous on est en train de faire, ce sont des spéculations. C'est ce qui, en fait, explique le fait que nous avons beaucoup de chiffres de la population congolaise. Au-delà de ces chiffres-là, on ne connaît pas les caractéristiques de ces populations-là. On parle de 80 millions. Le chef de l'État va vous parler de 80 millions. Quand vous allez descendre, le ministre vous parlera de 100 millions. Et puis, quand vous allez encore rencontrer une autre personne,
il va vous donner
120 millions.
Oui.
Et c'est ridicule pour un pays pendant cette période ici.
Et pourquoi, depuis 1984, on n'a pas organisé un autre recensement?
On n'a pas organisé.
C'est un problème de moyens ou c'est la volonté qui manquait?
Non, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Les Congolais sont déjà habitués à un concept qu'on appelle volonté politique dans ce pays. Ce n'est pas un problème de moyens. Normalement, on devait organiser le deuxième recensement scientifique au plus tard en 1994. Au plus tard. Et déjà en 1992-93, on avait commencé à préparer ce recensement-là. Le département de démographie de l'Université de Kinshasa était impliqué dans la réflexion pour pouvoir organiser le recensement en 1994.
Mais pourquoi en 1994 il n'y a pas eu ce recensement-là?
Eh bien, j'ai parlé de la volonté politique tout à l'heure. Le pouvoir du maréchal Mobutu à l'époque était en difficulté. Et en 1994, on avait déjà commencé le problème de il devait quitter le pouvoir. C'est ce qui explique la conférence nationale souveraine. Et déjà à la conférence nationale souveraine, le professeur Ngondo, de triste mémoire, a été le consultant de la commission qui réfléchissait sur les questions de population. Et la conférence nationale souveraine avait intimé l'ordre au gouvernement Tshisekedi, Étienne, de pouvoir organiser le recensement. Eh bien, ça figurait déjà dans le programme du gouvernement Tshisekedi Étienne. Et lorsque Tshisekedi Étienne est parti, on n'a plus organisé le gouvernement qui se sont succédés,
oui.
N'ont plus organisé le recensement. Et puis il y a eu l'AFDEL, nous sommes en 1997, et puis ce sont des crises.
Mais dans tous ces gouvernements qui se sont succédés, on parlait toujours du recensement, on va organiser, mais après, il y a toujours rien.
Oui, mais c'est justement, je parle des slogans dans ce pays. On parle du recensement, on parle également du mieux-être de la population. Ça a toujours été des slogans comme ça. Oui. Et chaque gouvernement qui vient va mettre sur table la question du recensement. Déjà en 2007... Il était question que le recensement soit organisé avant les élections de 2006, parce qu'on avait besoin de ces données-là. Et au lieu d'organiser le recensement, on va prioriser ce qu'on a appelé l'enrôlement.
L'enrôlement des électeurs.
Des électeurs, qui n'a rien à voir avec le recensement, même pas le recensement électoral. Et à ce moment-là, le professeur Ngondo, que son âme repose en paix, va proposer au gouvernement l'organisation d'un recensement électoral. Et encore une fois, les gouvernants ont refusé de prendre cette option-là, l'option du recensement électoral.
Il semble que c'est une opération qui demande beaucoup de moyens.
Justement, ça demande beaucoup de moyens, pas plus de moyens que les élections. Eh bien, nous sommes en 2000, on n'a pas organisé le recensement avant les élections de 2006, pour des raisons que les dirigeants savent. Ils savent pourquoi ils n'ont pas voulu organiser les recensements avant les élections de 2006.
Professeur, d'après les fonds des Nations Unies pour la population, le taux de croissance démographique dans notre pays est de 3,5%. Ça veut dire que tous les 20 ans, la population congolaise double et les efforts du gouvernement sont noyés. Tous les efforts pour développer les pays sont noyés à ce moment-là.
Justement, lorsque on a les données du recensement, ça permet au gouvernement de faire une bonne planification du développement, sachant que la population va doubler dans 20 ans. À ce moment-là, on prend des dispositions. Et au-delà de ça, lorsque on a les données du recensement et qu'on sait que la population peut doubler, on peut encore, en termes de planification, mettre en place une politique de population. Parce que la population doit être gérée. On doit gérer la population.
Et donc, le taux de natalité chez nous est très élevé.
Bien. C'est parce que la population... Il n'y a pas de politique de population dans ce pays.
Oui.
Parce que si on voulait gérer correctement cette population, on pouvait... Comment est-ce que la Chine est arrivée à la politique d'avoir un enfant unique par couple? C'est parce qu'ils ont vu... Ils avaient la dynamique de la population. Et sur base de cette dynamique, ils se sont dit, si on permet à un couple d'avoir autant d'enfants qu'il voudrait,
oui,
le pays sera ingérable.
Oui.
Et donc, c'est sur cette base-là qu'ils ont mis en place leur politique de population. Et nous aussi, si nous savons que avec 3,3% la croissance annuelle, nous pouvons alors insister sur, par exemple, la fécondité, la planification familiale, de manière à ce que, en 20 ans, au lieu de doubler la population en 20 ans, nous pouvons passer de 20 à 30, de 20 à 40 ans, si nous avons bien la maîtrise de la gestion de l'effectif de la population, de la dynamique démographique. Et dans ce pays, nous n'avons pas cette politique-là.
On n'a pas cette politique-là. Quelle est l'importance du recensement général de la population? On en parle dans cette émission avec le professeur Barthélémy Kalambay, démographe. Déjà en ligne, quelques auditeurs qui veulent participer. Vous voulez aussi intervenir, appelez au 081 890 63 94.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteur de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Quelle est l'importance du recensement général de la population? Jérémy Mouamba, vous êtes à Lubumbashi, Glody, à Bandounouville, et Pierrot nous appelle de Lubumbashi. Jérémy, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody. Je suis également à l'invité avec vous. D'entrée de jeu, je salue la pertinence de ce sujet combien important, parce que vous savez, en cette matière, nous saluons également le courage entrepris par les chefs de l'État, parce que constatant que la statistique quant à ce sujet demeure non fiable, vous n'avez qu'à vous rendre compte que ça fait un bon moment où notre pays n'arrive pas à maîtriser les choses. À un moment, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des spécialistes chargés de démographie dans ce pays? Parce qu'il y a des statistiques qui échappent vraiment aux Congolais. Vous vous rendez compte, au jour d'aujourd'hui, il y a les élections qui doivent se passer. Mais l'État congolais n'arrive pas réellement à connaître le Congo à quel effectif, à quel nombre d'habitants à son sein. Et vous savez, nous sommes dans un pays où le taux de naissance est vraiment élevé. Et le taux de mortalité également, en dépit de tout ce que nous connaissons comme crise sur le plan financier, avec l'économie qui est presque en berne, il est difficile de contrôler les nombres exacts de la statistique que regorge notre pays. Je pense qu'il revient au jour d'aujourd'hui. Si l'État congolais veut à ce qu'il puisse contrôler maîtriser la bonne gestion, tout passe d'abord par la statistique de tous les Congolais. Parce que si vous voulez d'abord parler de la qualité de l'enseignement, comment est-ce que vous allez connaître, comment vous pouvez arriver à dénombrer le nombre d'élèves que nous avons? Comment est-ce que vous pouvez dénombrer les cas de mortalité, les cas de naissance? Tout passe par là. Il faut qu'il y ait une bonne politique qui est mise en place, question de pouvoir octroyer le fisc à chaque Congolais un carte où soit cherché à connaître à partir de la base combien nous avons en province.
D'accord.
Combien nous avons dans tous les secteurs, même tous
les merci, merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci bien Jérémy. On va donner la parole à Glody de Bandounouville. Soyez bref dans vos interventions. Glody, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je voulais juste un peu faire un petit témoignage par rapport à ceci. Je pense que, monsieur le journaliste, vous savez, quand nous faisons les études par rapport aux démographies, nous devons donner un peu les études qui sont sérieuses, les résultats sérieux, Parce qu'au problème de la démographie, le problème de la démographie a comme conséquence les carences alimentaires. S'il y a trop de la population, il y a une crise alimentaire. Alors, je voulais poser la question à monsieur l'invité. Lui, en tant qu'expert démographe, quels sont les nombres statistiques qu'il peut juste imaginer par rapport à cette année que nous sommes? Parce qu'il a bien expliqué qu'il n'a pas encore fait les études concrètes pour avoir le nombre statistique. Alors, quels sont les nombres statistiques qu'il peut d'abord imaginer par rapport à notre pays? Et la seconde chose, c'est qu'il y a encore le surpeuplement. Le surpeuplement, tout ça, c'est parce qu'on ne contrôle pas les naissances et tout ça, on ne sait pas encore. Mais là, je demande les services compétents qui peuvent vraiment prendre des dispositions en main pour lutter de pareils problèmes pour que notre pays puisse aussi évoluer. Parce que si notre pays n'évolue pas, parce qu'il y a surpeuplement, il y a beaucoup de personnes, les producteurs produisent, il y a tant de personnes, alors ça ne permet pas que la population puisse survivre. On puisse vraiment mettre les études sérieuses par rapport à ce secteur. Je crois que ça va être vraiment une bonne chose.
Et merci. Notre
pays aussi peut développer.
Merci Glody. Pierrot, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, bonjour Jédi.
Nous parlons de l'importance du recensement.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Oui, quelle est votre question, Pierrot?
Moi, je voulais faire remarquer ceci.
Oui.
Que moi, je voudrais qu'on puisse bien rétablir le service de l'état civil. Vous savez, ici chez nous, les statistiques qu'on nous a données par la CENI dernièrement, ici, quand on a dit que sur 80 millions de Congolais, il y a eu 46 millions d'enrôlés. Pour moi, j'ai trouvé que c'est un scandale, parce que si vous prenez la population congolaise, à voir seulement la population de moins de 18 ans, elle est peut-être le trois quarts de la population congolaise. Et quand on nous dit que nous sommes enrôlés à 46 millions d'électeurs sur 80 millions d'habitants, c'est un scandale pour moi. Alors moi, je voudrais que l'on puisse introduire toutes les machines possibles, tous les services possibles, de sorte que chaque fois qu'on appose, on enrôle, on appose son empreinte digitale, de sorte que chaque fois qu'il y a des doublons, qu'on puisse annuler les doublons directement, au lieu de vivre ce que nous avons vu au niveau de l'enrôlement que nous avons connu dernièrement.
Merci.
Voilà au moins mon idée que j'avais, celle que je voulais faire remarquer.
Merci Pierrot. Professeur, vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup. Je vais commencer par l'intervention de Pierrot. Pierrot, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez du scandale. C'est scandaleux. Les démographes n'ont pas voulu rentrer dans les débats électoraux, tout simplement parce que c'est purement politique. Purement politique, c'est que vous dites, vous avez raison. Lorsque la CENI vous donne 46 millions d'habitants,
d'électeurs,
46 millions d'électeurs, alors qu'on sait que toujours avec les mêmes effectifs, les chiffres donnés par le gouvernement, nous sommes autour de 80 millions. Et 80 millions, nous sommes à peu près la moitié de la population aurait 18 ans et plus, ce qui est faux, très très faux. Et donc, je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux. C'est scandaleux tout simplement parce que quand on veut tricher à un certain moment, ça devient même difficile de pouvoir être logique, cohérent. Bien, ça c'est un autre débat. Vous avez parlé de l'état civil. Ça n'existe pas dans ce pays, l'état civil. Allez à l'état civil, vous trouverez que c'est principalement pour les mariages. Et quand vous prenez les données de l'état civil, c'est encore une fois scandaleux. Tout simplement parce qu'on n'attache pas l'importance à cette dynamique démographique. L'effectif, la population, on ne sait pas que c'est un élément important.
Même les mariages qu'on célèbre ne sont pas enregistrés.
Et les mariages, quand vous suivez les normes, déjà à Kinshasa, vous habitez à Lingwala, vous allez vous marier à Mongafula.
Eh bien, ah oui, ça se fait.
Ben, vous êtes à Mongafula, vous vous mariez à la Gombe. Et donc, vous êtes enregistré à la Gombe et vous n'êtes pas enregistré à Mongafula.
Eh bien, et ça va fausser les données.
Mais ben, c'est quoi ça? C'est du désordre. C'est ça le scandale dont parle Pierrot. Et pour revenir à Jérémy Lubumbashi, Jérémy, il existe des démographes dans ce pays. Il y a tout un département de démographie qui forme les démographes depuis 1974. À l'université de Kinshasa. Et ce sont des démographes de renommée internationale, mon ami. Et ces démographes interviennent dans d'autres pays, sauf dans leur pays, parce que, comme d'habitude, dans ce pays, on ne connaît pas l'importance des nationaux. Et je vais chuter par là. En 2009, pendant que le département de démographie, avec l'Institut national de la statistique, appuyé par les bailleurs comme UNFPA, en train de réfléchir sur le recensement, 2009, nous sommes à Kisantu. De retour de Kisantu, en route, on nous dit que le gouvernement Gizenga a démissionné. Et le gouvernement Gizenga qui démissionne, le premier ministre Gizenga va laisser sur sa table le projet du décret convoquant le recensement. Et c'est lui qui va arriver, ce monsieur Mouzitu. Quand il arrive, on fait la comédie. Et nous devrions disposer les données du recensement avant les élections de 2011, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un problème politique. On n'a pas voulu que nous ayons les données du recensement avant les élections de 2011. Eh bien, Pendant que nous, le département de démographie, avec le professeur Kambay qui vous parle, à la tête du département, comme chef de département, nous étions en train de faire le plaidoyer pour le recensement, un ministre national, chargé de questions ayant trait au recensement, mais dira un jour, dans une raison que vous avez exagérée, messieurs, le recensement n'est pas électoral, le recensement n'est pas constitutionnel, ce sont les élections qui sont constitutionnelles. Eh bien, si vous pouvez déjà comprendre qu'un ministre vous dit que le recensement n'est pas constitutionnel, que ce sont les élections qui sont constitutionnelles, oui. Vous pouvez tout comprendre. Et je vais citer sur la préoccupation de Glory de Bandundu.
Oui.
Eh bien, si on ne gère pas très bien la composante population, nous allons avoir des crises comme celles qui sont à l'est du pays.
Il demandait le taux de croissance cette année.
Et bien,
toujours 3,
et nous sommes toujours dans les spéculations, chacun a son chiffre.
3,5 par année.
L'UNFP vous a parlé de 3,5, je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, c'est toujours sur base des projections, des données de 1984.
Et vous parlez de 3,3.
Qui sont déjà obsolètes. Je ne peux même pas avancer ces chiffres-là.
Oui.
Je ne peux même pas cautionner ça.
Alors, professeur, on parle souvent de la transition démographique. De quoi s'agit-il? C'est quoi la transition démographique?
Bien, lorsqu'on parle de la transition démographique, c'est qu'on passe d'un régime où nous avons une forte mortalité, une forte fécondité, vers un régime où nous avons un niveau faible de fécondité et un niveau faible de mortalité. Eh bien, on doit passer par cette transition. Mais dans ce pays, nous sommes toujours dans le régime d'une forte fécondité
et d'une forte mortalité.
Nous n'avons même pas encore entamé cette transition-là, même pas. Ça fait 3 phases, mais nous ne sommes qu'à la phase de départ, parce que une femme congolaise qui commence sa maternité la termine avec 6 enfants.
Il y a des ménages de 6 à 7 enfants.
7 enfants. Oui. Eh bien, à ce niveau-là, nous n'avons même pas encore quitté la gare pour pouvoir entrer dans cette transition. Et au-delà de ça, on va également parler du dividende démographique. Lorsqu'on a bien géré la composante population, nous allons avoir certains avantages, c'est qu'une seule personne ne va pas supporter plusieurs personnes, et les jeunes gens, parce qu'on va investir dans les jeunes gens, nous allons avoir des bonnes naissances, ces enfants, nous allons très bien les encadrer, et ces naissances, ces enfants vont étudier, et lorsqu'au moment ils vont pouvoir travailler, l'État ne va plus beaucoup investir dans les infrastructures de base pour pouvoir gérer les enfants, gérer les maternités.
Et si la population est jeune, elle est productive, c'est ça qui peut amener aussi la croissance économique.
La population est jeune, et cette population qui a été très bien capacitée, c'est pas avoir une population jeune comme nous avons aujourd'hui, des Kuruna. Et donc, si nous avons une population jeune comme la nôtre, que nous n'encadrons pas, que le gouvernement n'encadre pas, c'est une bombe à retardement. Et ça va exploser bientôt dans ce pays, parce que ces jeunes gens que nous avons mis au monde, très très nombreux, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas du travail. Et donc, ça encore, c'est l'équation que le président de la République actuelle doit gérer. Donc, on lui a laissé également une bombe, parce qu'on n'a pas bien géré la composante population, et aujourd'hui, nous n'avons pas une population de qualité. Mais comment ça va?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur? Faut-il prendre une décision pour qu'on réduise le nombre des naissances dans ce pays, les taux de natalité, baisser la fécondité?
Mais il faut d'abord qu'on sache exactement quel est le taux de cette fécondité. Quel est le taux de natalité, quel est le taux de fécondité de son pays? Parce que dans ce pays, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des spéculations. Je vous ai dit que les données datent de 1980, c'est même vous-même vous l'avez dit. Ces données-là, les données du recensement nous permettent de calculer le taux de mortalité. Ça veut dire que ça nous donne les dénominateurs dans les calculs du taux de mortalité, du taux de natalité. Et le numérateur, c'est les données de l'état civil. Nous n'avons ni état civil ni recensement dans ce pays. Ni état civil, ni recensement. Et les indicateurs que nous sommes en train d'évoquer là, nous les estimons à partir des enquêtes. Et ces enquêtes-là, nous utilisons la base de sondage qui vient des données du recensement de 1984. Donc tout est faux, c'est scandaleux, comme disait notre ami, et le flou.
Il y a toujours un flou démographique.
Oui,
on va accueillir Pascal de Lubumbashi et Maître Machaka, qui se trouve également dans la même ville. Pascal, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur le recensement général de la population en RDC?
Oui, ma question est celle-ci. J'ai dit, le recensement sera fait avec les expatriés congolais ou bien ça sera fait comment?
Alors, quand vous parlez, les Congolais vivant à l'étranger, c'est ça?
Ah oui, effectivement.
D'accord, les Congolais de l'étranger, est-ce qu'ils seront également impliqués dans le recensement? Merci, Maître Machaka, vous êtes aussi à Lubumbashi. Quelle est votre question?
Bonjour, Monsieur Jody, bonjour au professeur, notre invité, bonjour à tous les auteurs de Radio Capi. Avant de poser une question à notre invité, j'avais une... proposition ou bien une suggestion. Vous savez, monsieur Jody, aujourd'hui, c'est comme si toutes les entités administratives décentralisées sont démissionnaires, puisque le recensement est simple, monsieur Jody, puisque nous avons des chefs de quartier, nous avons des chefs de rue, des chefs d'avenir. C'est quoi? Tous ces gens-là, chacun devrait savoir la démographie, le nombre de sa population selon l'âge et selon leurs occupations. Alors, tous ces gens-là, ils sont là seulement pour tracasser la population et consorts, mais faire leurs tâches, ils ne les font pas. Alors, ce qui rend un peu certaines situations difficiles, puisque aujourd'hui, vous ne pouvez pas planifier quelque chose sans connaître le nombre de votre population. Même dans nos maisons, avant d'acheter quelque chose, même les pères disaient, ça veut dire que j'ai autant d'enfants et je dois acheter autant de pères. Alors, ma préoccupation est la suivante, et je demande au professeur, ces recensements-là, sera effectué par une commission qui sera organisée, une commission ad hoc, ou bien ce sont toujours les mêmes personnes-là qui souvent, faute de données, qui seront chargées de faire ces recensements. Voilà, on est ma préoccupation, M. Jody.
Bien, Kachai, vous êtes à Kanyoka, dans les Kachai centrales. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, M. Jody Daniel Kachama, et bonjour à notre invité, M. le professeur. Je voulais demander à monsieur le professeur de nous éclairer sur certaines choses. Mais avant ça, monsieur, je dis, moi, personnellement, je me posais des questions de savoir si je suis réellement congolais. Parce que je n'ai pas la carte d'identification. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu une carte d'identification
Kachai,
dans ce pays.
Oui, Kachai, vous avez au moins...
la carte d'électeur.
Vous avez une carte d'électeur, voilà.
Oui, mais la carte des lecteurs, on dit, elle fait office de la carte d'identification, mais normalement, du temps de Mobutu, les gens avaient une carte d'identification. Mais quand cela ne tient, je sais qu'avec les démarches entreprises par le président actuel, nous pourrons aboutir à un recensement si ce n'est pas une démagogie. Monsieur Jody, je voulais demander à l'invité, avant l'organisation des élections de 2018, le gouvernement du régime Kabila avait demandé à ce qu'on puisse recenser la population. Et l'opposition avait refusé, et certaines organisations de la société civile, ils disaient que si on va passer au recensement de la population, cela va prendre du temps, et puis nous risquons d'aller jusqu'en 2020 pour organiser les élections. Alors, je voulais au moins demander à monsieur le professeur, en dehors des enjeux politiques qui peuvent empêcher l'organisation du recensement sur toute l'étendue du territoire national, quelles sont les techniques pouvant être possibles, mises en jeu, pour que le recensement soit organisé? Et deuxièmement aussi, comment, parce qu'il a dit qu'il faut passer par maison, pour identifier les personnes qui habitent dans cette maison-là. Alors, mais quelles sont aussi d'autres techniques qui peuvent être utilisées si le recensement sera organisé ultérieurement et probablement? Quelles sont d'autres techniques qui peuvent être utilisées par les gouvernements pour que les populations s'identifient dans un bref délai?
D'accord, merci. Merci Kachai. Professeur Kalambay, vous avez la parole.
Merci beaucoup, chers amis, pour votre intérêt à ce débat. Il y a un intervenant qui a voulu savoir si...
les Congolais de l'étranger seront également recensés.
En fait, quand on fait le recensement, on le fait sur le territoire national. Et sur le territoire national, l'autorité... le président de la République ou le premier ministre prend, le président de la République peut prendre une ordonnance ou le premier ministre va prendre un décret. Et dans ce décret, il va déterminer quel est le type de population qu'on va pouvoir recenser. Nous avons deux types de population qu'on peut recenser. On recense la population de droit, c'est-à-dire ce sont les individus qui habitent sur le territoire congolais et qui habitent dans leur milieu de résidence. Et ces individus-là, qu'ils soient présents ou absents, ces individus vont être recensés, vont être dénombrés.
Mais c'est la population de droit.
C'est la population de droit. Et on peut également décider de recenser la population de fait. La population de fait, c'est quelqu'un qui... on va le dénombrer là où il est. S'il est visiteur, il habite habituellement Kinshasa, le jour du recensement, on va le recenser là où il est, s'il est à Kikwit ou s'il est à Lubumbashi. Et ça, c'est la population de fait. Et donc, la population qui va être dénombrée, cette population-là est déterminée par l'acte qui invite ou qui institue le recensement. Les Congolais vivant à l'étranger peuvent également être recensés au niveau des ambassades. Normalement, nos ambassades sont censées connaître tous les Congolais qui vivent sur un territoire donné, dans un pays donné. Cela n'est pas le cas malheureusement pour le Congo. J'ai été en Belgique pendant 5 ans et je n'ai jamais été... même l'ambassade ne savait pas que je vivais
que vous vivez en Belgique.
Bien, et tout ça, ce sont des choses qu'on doit corriger. Très rapidement.
Maître Machak a dit de Lubumbashi qu'il faut impliquer les chefs des rues, les chefs des quartiers dans cette opération de recensement.
En fait, il fait allusion au recensement administratif. Parce qu'il faut faire la différence entre le recensement scientifique et le recensement administratif. Le recensement scientifique, c'est le recensement qui se fait, qui est convoqué par soit le Premier ministre, soit le Président de la République, institué. Et ce recensement-là se fait sur le territoire national le même jour, qu'on appelle le jour du recensement. Et ce jour du recensement, c'est généralement soit le 30 juin d'une année, soit le 1er juillet. On prend le 30 juin ou le 1er juillet parce que ce sont les jours ou les dates qui sont au milieu de l'année. Il faut savoir que le recensement nous donne les données. En fait, le chiffre du recensement, c'est un chiffre moyen. C'est l'effectif moyen annuel.
Et ça doit se faire entre le 30 juin et le 1er juillet.
Et ça se fait sur une période qui sera également déterminée dans le décret ou dans l'ordonnance. Ça s'appelle la période censitaire. Et c'est durant cette période qu'on va pouvoir dénombrer. Eh bien, le recensement administratif, c'est ce que les chefs de quartier sont en train de faire. Et ils le font quand ils ont envie de le faire. Mais lorsqu'ils le font, ils ne prennent pas toutes les caractéristiques sociodémographiques dont on a parlé.
Et l'âge, le sexe...
Ils vont prendre l'âge, ils peuvent prendre le sexe et puis c'est fini. Et donc, chaque chef de quartier se réveille, il fait ça de la manière qu'il veut. Et en recensement scientifique, nous devons avoir les mêmes concepts, les mêmes normes et la même périodicité. Donc, pour notre ami, il doit noter que le recensement administratif ne peut pas être considéré, ça n'a pas la même valeur que le recensement scientifique.
Et Maître Machaka veut savoir s'il faut mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée d'organiser le recensement.
Non, lorsqu'on fait un recensement, toujours le décret détermine la structure qui est chargée de conduire le recensement. Dans notre pays, nous avons l'Institut National de la Statistique. C'est l'Institut National de la Statistique qui a dans ses missions de pouvoir gérer ce genre de dossiers. Et au niveau de l'Institut National de la Statistique, il y a le bureau du recensement. Et ce bureau du recensement existe, ça a déjà été mis en place depuis le décret de M. Mouzitou. Eh bien, il y a effectivement des commissions qui sont organisées au niveau du bureau du recensement. Et donc, on va faire venir les experts de tous bords. On aura les agronomes, on aura les démographes, on aura les géographes, on aura tous ces gens rentrent également là-dedans parce qu'ils doivent également contribuer à l'élaboration des outils de collecte. Lorsqu'on fait le recensement, on va même recenser les logements, on va chacun va déclarer la superficie des champs.
Les outils de collecte, il y aura des questionnaires. On va élaborer
des questionnaires.
Voilà.
Ce sont des questionnaires.
Voilà, une autre préoccupation, Kachai de Kanyoka, il dit, si on n'a pas pu le faire avant, parce que certains politiciens n'étaient pas d'accord pour le recensement, parce que ça prend du temps, il y avait d'autres enjeux politiques, et d'après lui, et alors il se demande quelles sont les techniques qu'il faut mettre en place pour organiser rapidement un recensement. Avant de répondre à Kachai, on va accueillir Ilunga Mwamba, qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Ilunga.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute à Ilunga.
Je suis Armoumbashi. Donc, je vous dis ceci.
Alors, vous écoutez, veuillez réduire le volume de votre radio, vous allez sur la partie du téléphone, parce que quand vous prenez le temps d'écouter à la radio, ça vous met en retard. Veuillez carrément vous éloigner de la radio, vous allez écouter à partir de votre téléphone.
Ok.
Allez-y maintenant.
Je disais que je suis très content, je suis très content de votre idée. Celui qui a soulevé l'idée de faire le recensement, c'est une bonne idée pour avoir des sièges dans chaque territoire et dans chaque groupement. Chez nous, depuis Berge, et même en 84, on n'a jamais fait de recensement. Mais on nous dote les quotas de députés nationaux, trois députés provinciales. Et on ne sait pas de quel critère et de quelle façon ils font sortir ces gens. Partout, le petit territoire, qui ont même petit nombre de gens, il y a 6 sièges. Oui, c'est au niveau provincial, mais chez nous, depuis Berge, il n'y avait qu'un. À partir de 87, on a donné des sièges. Jusqu'aujourd'hui, la population ne se multiplie pas. Moi, je suis d'accord pour le recensement avant les élections. Scientifique ou enrôlement avant les élections, il faut que ça se fasse. Je remercie beaucoup le professeur qui a donné cette idée.
Merci. Merci beaucoup, Henri. Vous êtes à Kasumbalesa, bonjour. Henri depuis Kasumbalesa, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question? Nous parlons du recensement général de la population.
Oui, ma question d'abord, je souhaite d'abord saluer mon collègue Katia Yakananga. Et je cherchais à savoir si il arrive que le chef de l'État accepte pour qu'on puisse aller à la recensement. Et je cherchais à savoir d'où proviendra les fonds. Si les fonds proviennent de nos partenaires internationaux ou bien des gouvernements centraux, ou bien ça proviendra du. Et deuxième préoccupation, cette initiative est bonne pour qu'on puisse connaître la population congolaise.
D'accord, merci Henri. Merci Henri depuis Kasumbalesa. D'ailleurs, on vous entend un peu difficilement. Professeur, d'où proviendra les fonds pour organiser les recensements? Et d'après les fonds des Nations Unies pour la population, il faut au moins mobiliser 200 millions de dollars américains pour cette opération.
Merci Jody. Merci chers compatriotes. Les fonds, c'est le gouvernement qui doit donner, mais le gouvernement est toujours assisté par les partenaires techniques et financiers. Je peux vous informer que depuis que nous avons commencé à réfléchir sur les recensements, le Fonds des Nations Unies en matière de population, UNFPA, a toujours pris en charge les conseillers techniques en matière des élections. Et ce sont des expatriés, ça coûte cher à cette organisation. Au moment où je vous parle, nous avons encore un collègue démographe qui est actuellement au Congo et rien ne marche. Et donc c'est depuis que nous avons commencé à réfléchir sur les recensements vers, en 2005-2006. Et donc, les partenaires au développement sont là. La Banque mondiale assiste le pays. On a déjà acheté le matériel pour les recensements. Les motos ont déjà été achetées. Les véhicules se trouvent quelque part à Kingabwa. Tout est là. C'est la volonté politique, comme on aime bien le dire ici. Mmh. Et donc, 200 millions pour un gouvernement comme le nôtre, ça ne représente rien. Ailleurs, ce sont les pays eux-mêmes qui financent. Ailleurs. Mmh. Mais ici, j'ai été impliqué dans ce plaidoyer pendant plusieurs années. UNFPA, dans chaque année, dans son plan annuel, il met les fonds sur le recensement. Et la Banque mondiale même.
Il y a mais toujours des fonds disponibles pour ça.
Il y a des
ça.
Fonds et ils sont même disposés à nous accompagner.
Oui.
Malheureusement, c'est au niveau des dirigeants, au niveau de la gouvernance. On n'en veut pas. Il y a le compatriote qui dit que chez lui, on n'a toujours pas eu de sièges électoraux. Pourquoi est-ce qu'ils ont deux sièges?
Sur quelle base, on a déterminé?
C'est sur base de spéculation d'enrôlement. Oui. On ne veut pas avoir les vrais chiffres de la population justement pour éviter ça. Et donc, on va donner beaucoup de sièges à certaines circonscriptions qui ne devraient pas en avoir. Eh bien, c'est de la tricherie, c'est de la fraude. Et ça va amener des conflits au pays. Lorsque vous allez à l'Est, je vous dis qu'on a des problèmes à l'Est notamment à cause de la non-maîtrise des effectifs. On ne sait pas qui est étranger, qui ne l'est pas. Et puis, parce qu'on a, fait la décentralisation, le découpage des provinces. On s'est basé sur quels critères ?
Pour faire le découpage, avoir 26 provinces.
Avoir 26 provinces. C'est sur quels critères, en termes de population ? Mais nous risquons d'avoir encore d'autres problèmes
on veut la décentralisation, on veut... Voilà,
On peut avoir des provinces où il y a un surpeuplement. Il y a un compatriote qui en a parlé. Et lorsqu'il y a surpeuplement, on a découpé, on a confiné les gens dans une petite circonscription, ça peut créer des problèmes. Eh bien, tout ça, ça devrait être réfléchi si nous avions les effectifs de la population, les caractéristiques de la population. J'ai parlé autrefois des investisseurs. Nous ne connaissons pas le profil de notre population. On ne connaît pas qui est qui. J'avais posé la question à un ministre. J'ai dit, monsieur le ministre, vous êtes ministre du plan. Dites-moi, combien de gynécologues avons-nous dans la ville de Boma? Non, loin de Kinshasa. Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'ingénieurs agronomes que nous avons dans ce pays? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, monsieur le ministre, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être là comme ministre du plan et ne pas savoir combien d'ingénieurs agronomes nous avons, combien de médecins nous avons.
Donc même le développement, la planification du développement, il y a un lien, il croit
mais
entre
déjà
la démocratie
Déjà au niveau du ministère qui s'occupe de la planification, on ne sait pas qui fait quoi.
Professeur, je reviens à vous, on va accueillir les deux derniers auditeurs. Claude nous appelle des Dungu et Mouloubois est à Kalemi. Claude, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport au recensement général de la population?
Ok, ici le taux de fragilité des territoires de Dungu province.
Quelle est votre question? Allez-y rapidement, je vous ai déjà présenté, on veut gagner le temps. Quelle est la question, Claude?
Ok, ma question est comme suite. Est-ce qu'il y a-t-il quand même l'importance des bureaux de l'état civil dans notre pays?
D'accord, merci.
Okay, deuxièmement.
Oui.
Ok, après ça, est-ce qu'il y a quand même, l'importance du secrétariat général de l'Institut national de statistiques.
D'accord, merci. On va accueillir Mouloubois d'Académie. Bonjour. Mouloubois, vous êtes à Académie. Bonjour. Voilà, il n'est plus là. Professeur, on est en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission, mais on a suivi que le président de la République a manifesté cette volonté d'organiser le recensement. Alors, qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, quelles sont les garanties qu'il faut avoir pour que cette fois-ci, que ça soit la bonne, qu'on puisse organiser le recensement?
Oui, merci, Jody. D'abord, je réponds à Claude. Oui. Claude, les bureaux, l'état civil, c'est un service très, très important. On doit l'avoir et on doit donner les moyens à ces services-là. On doit très bien organiser les services d'état civil. Pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, l'état civil.
Dans les différentes maisons communales.
Excusez-moi, vous avez une petite plaque écrite quelque part. État civil. Ça ne vaut rien tout ça.
Pourquoi vous dites ça, professeur?
Et lorsque vous y entrez,
oui,
vous allez trouver des messieurs qui sont là pour pouvoir remplir des formulaires. Et quand on a rempli ce formulaire, et d'abord ceux qui sont là n'ont jamais été capacités, ils ne connaissent même pas l'importance de ce formulaire. Ils n'en connaissent pas. Donc en termes de la conservation, c'est pas un document qui est valable. Ça n'a pas de valeur devant ces gens-là.
Oui.
Donc déjà au niveau du personnel,
il y a un problème.
Oui. Au niveau de l'équipement, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a une enquête que l'UNFPA est en train de faire sur l'état civil. Les enfants n'ont pas de certificat de naissance.
Oui.
Et donc, on ne sait même pas qui est.
L'enregistrement des enfants.
Pour revenir à votre préoccupation par rapport à ce que le chef de l'État veut faire,
oui,
nous avons salué son idée, nous le félicitons. Il ne peut pas réussir son mandat s'il n'a pas... organisé
le recensement général.
Il n'organise pas le recensement, il voudra organiser les élections. Nous allons tomber dans les mêmes aventures que les élections de 2018. Là, c'est pour parler des élections. On a parlé des sièges électoraux tout à l'heure. C'est un problème politique. Ça peut embraser tout un pays. En termes de planification, nous avons parlé autrefois des enfants qui sont en dehors de l'école. Ils étaient estimés à 7 500 000.
Aujourd'hui, c'est au-delà.
Et ne vous en faites pas, c'était une enquête, ce n'était pas un recensement. Et donc, si on faisait le recensement, je suis sûr qu'on devrait être au-delà, parce qu'une enquête, c'est, nous sommes dans des probabilités. Eh bien, le chef de l'État, s'il veut bien réussir son mandat, marquer son passage à la tête de ce pays, il faut qu'il nous organise
le recensement général
scientifique de la population et de l'habitat.
Professeur Kalambay, merci. Je rappelle que vous êtes démographe, professeur Barthélémy Kalambay. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'importance du recensement général de la population.